défi de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défi de chez nous, le magazine socio-économique de la Synergie des radios.
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Ijwi ry'Abanyagihugu et la télévision Renaissance. Défi de chez nous, rendez-vous chaque dernier jeudi du mois sur nos ondes.
C'est dans son cadre que le gouvernement du Burundi.
Comment développer le tourisme sous tous ses aspects?
Et tout d'un coup, la situation s'est dégradée depuis 2015 pour des raisons que vous connaissez.
Des experts économistes, des professeurs d'université, directeurs généraux, ADG des banques, représentants du secteur privé, la diaspora et autres opérateurs privés, voilà en partie le profil des personnalités qui ont répondu au Forum pour le développement économique du Burundi tenu en date du 18 et 19 novembre dernier sur invitation du président de la République Évariste Ndayishimiye. Le but était d'évaluer ensemble les causes du sous-développement au Burundi afin de projeter dans l'avenir. Pourquoi donc le Burundi fait-il partie des premiers pays pauvres au monde? Quelles sont les raisons à l'origine du manque de devises dans les caisses de l'État? Y a-t-il espoir d'un changement positif dans un proche avenir? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter des réponses. Défi de chez nous, nous allons revenir sur les conclusions du forum que le chef de l'État a suivi avec une attention particulière. Évariste Ndayishimiye va-t-il finalement arriver à des résultats escomptés? On en parle dans ce magazine. Josine Kadé, je suis à l'animation. Bonne réception chez vous. L'économie du Burundi souffre encore des séquelles de la crise politique déclenchée depuis 2015. Elle est la cause du déficit économique et le manque de devises qui handicape toutes les transactions commerciales en dehors du pays. Cela ressort du Forum national sur l'économie du Burundi tenu en date du 18 et 19 novembre 2021 au Palais des Congrès de Kigobe. Le tourisme est un des secteurs qui doivent être revalorisés. Pierre Garungo a suivi pour nous les débats dans la salle. Voici son reportage.
C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi, agissant dans le...
C'était le discours d'ouverture du président Évariste Ndayishimiye au Palais des Congrès de Kigobe. Selon lui, tout est en place pour l'émergence du pays sous tous ses aspects de la vie pour parler d'une économie digne d'un pays.
Le gouvernement du Burundi est fermement engagé dans son combat contre la pauvreté en vue d'accélérer la croissance de façon soutenue, durable et inclusive pour atteindre le niveau d'un pays émergent à revenus intermédiaires. Il n'y a pas d'épine sous nos pieds qui nous empêche de marcher vers le développement effectif et inclusif. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi reste concentré sur l'identification des défis dans le but d'élaborer des stratégies et des politiques visant à assurer la transformation profonde et la modernisation de l'économie nationale.
Cependant, il a été prouvé que le pays est sous le choc de la crise politique de 2015. Ce sont les banquiers qui ont déploré qu'avec le manque criant des devises, l'économie a fortement chuté. L'administrateur directeur général de la Banque de Crédit de Bujumbura, Tarcisse Lutumo, l'a dit sans mâcher les mots, comme un défi majeur du fonctionnement des banques au Burundi.
Les personnes que je vais croiser dans la rue ce soir vont me dire, il semble que vous avez trouvé des solutions. Donc demain, je passerai chez vous pour les devises. Il y en a qui viennent dans nos bureaux avec des ordres de transfert. S'il vous plaît, veuillez m'aider. Et quand on dit on n'a rien, ça ce sont des importateurs. On pourrait dire que la question ne peut pas toucher, ne touche pas tout le monde, mais c'est aujourd'hui, avec une longue crise de carburant, que finalement, même le citoyen lambda peut sentir que quand il y a crise de devises, ça me touche tous. À la banque, en tout cas dans ma banque, la banque de crédit de Bujumbura, avait de quoi servir nos clients, on avait de quoi vendre au bureau de change, et s'il le faut, chaque jour, on avait des réserves excédentaires que l'on cédait à la banque centrale. Et tout d'un coup, la situation s'est dégradée depuis 2015 pour des raisons que vous connaissez.
Parmi les solutions proposées au cours de ce forum, le Burundi devrait restaurer le secteur du tourisme pour augmenter les recettes. Denis Chimilimana, secrétaire général de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi, s'inspire des pays de la sous-région qui ont développé le tourisme. Actuellement, pour certains de ces pays, plus de 50% des recettes proviennent de ce secteur.
Même si nous voulons viser les recettes touristiques, il faut un train de mesures d'accompagnement. Alors, pour parler chiffres, les autres pays de la région, avant le Covid-19, avaient des sommes colossales. À la tête, c'était la Tanzanie naturellement, avec le rétablissement surtout d'Air Tanzania. Ils étaient déjà presque à 2 milliards et demi de dollars américains par an. Le Kenya, c'était autour d'un milliard 600 millions. L'Ouganda, quelque chose comme un milliard 100 millions. Le Rwanda déjà avait dépassé la barre de 500 millions de dollars. Alors, ça veut dire nous devrions absolument voir comment développer le tourisme sous tous ses aspects.
Au terme de ce forum, un cadre de la mise en application des décisions et propositions des participants a été mis en place, ce qui a rassuré plus d'un de l'importance de ce forum qui avait été longtemps attendu.
Merci bien Pierre Gawungu. Et parmi les préalables mis en avant par certains experts figure une bonne gouvernance. C'est le point de vue du mouvement MAP Burundi Buhire. Ces Burundais de la diaspora trouvent que la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme sont des éléments fondamentaux pour une relance économique. Josiane Munzaneza.
Comme beaucoup de personnes aiment le croire, ce n'est pas la richesse du sous-sol qui fait le développement d'un pays, ni le flux de capitaux qu'on peut mobiliser, encore moins les infrastructures dont dispose un pays. Selon les experts en économie, le préalable le plus important est la conception de l'État et son rôle. Ici, le professeur libéral Bashira Kandi nous donne quelques éclaircissements.
Le développement, c'est comprendre d'abord que le développement économique d'un pays vient en aval d'un développement politique. Autrement dit, le préalable dans le développement, c'est il faut un développement politique. Autrement dit, ce qui manque, c'est la volonté politique, la vision politique, le leadership et surtout le développement politique. Voilà la raison principale.
Néanmoins, rien n'est encore perdu. Selon le professeur Nibashira Kandi, il suffit que les Burundais en général et les autorités du pays en particulier y mettent de la volonté pour redresser la situation. Et cet expert d'énumérer les quelques secteurs cruciaux qui conditionnent ce développement effectif tant souhaité.
Il faut la paix et la sécurité pour tous les citoyens. Il faut une justice équitable et totalement indépendante de l'exécutif. Il faut une bonne gouvernance économique, politique et sociale. Il faut lutter contre la corruption, etc., etc. Et je soulignerai que le développement politique se traduit par le droit de tous les citoyens à la paix, à la sécurité, comme je viens de le dire, l'exercice des libertés tant publiques que politiques, et le respect des lois existantes. Donc le développement s'entend en termes, disons, de construction d'un système de valeurs, Ubuntu et Ushingenhae, que toutes les générations actuelles et à venir doivent défendre.
Le professeur libéral Nwashira Kandi a tenu également à appeler le pouvoir en place à ne pas considérer la diaspora comme son ennemi, mais plutôt d'associer ses Burundais vivant à l'étranger dans ses projets de développement, vu qu'ils sont des atouts et non un poids qui explique le sous-développement du Burundi.
Merci aussi Josiane Munzaneza. Et quel est le point de vue du citoyen lambda? Parole aux auditeurs, c'est dans un instant.
Défi de chez nous, parole aux auditeurs.
La situation au Burundi est catastrophique. Regardez les cas de violation des droits de l'homme, les disparitions et les assassinats sont devenus monnaie courante. Au fait, on est revenu à la situation de 2015. Le président fait semblant d'avoir la bonne foi de redresser la situation, mais en réalité, ce ne sont que des paroles en l'air, car ce qu'il dit n'est jamais concrétisé. Bref, quand les voleurs sont plus forts que l'État, aucun développement n'est possible.
Avant la détérioration de la sécurité, on dirait que notre pays est en guerre. Les disparitions forcées sont légion. Des cadavres sont découverts partout, dans les rues ou dans des rivières. Plus grave encore, aujourd'hui ils ont adopté une nouvelle stratégie pour brouiller les pistes. Ils tuent les gens et matissent ces meurtres en suicide et la police valide cette version. Il y a beaucoup de détentions arbitraires. Beaucoup de gens sont tout le temps torturés dans les différents cachots de la documentation. Alors, comment voulez-vous que les investisseurs viennent dans notre pays dans ces conditions? Le service national de renseignement passe son temps à cibler les gens et à élaborer des plans visant à les dépouiller de leurs biens. Il n'y a pas une semaine, un commerçant s'est fait voler 9 millions par les agents de la police et ceux de la documentation. 3 mois avant, un autre commerçant a été cambriolé par des gens qui étaient à bord d'un véhicule de type Helix appartenant au service national des renseignements. Au fait, le commerçant en question avait sur lui 60 millions et ils l'ont tendu un piège juste après qu'il ait versé 21 millions sur son compte bancaire. Le reste a été volé par ses agents de l'État. S'il arrive que ces investisseurs viennent au Burundi, ils devront faire très attention et ne pas se laisser leurrer par le sous-sol burundais. Sinon, ils risquent de tout perdre et rentrer bredouille.
J'ai vu des crimes de violation des droits humains dont les enlèvements, les viols sur les femmes et les filles continuent de se commettre. Et à côté de cela, même les aides qui viennent sont détournées et ne parviennent pas à les destinataires. C'est vraiment honteux. Prenez par exemple le récent cas de détournement de 54 milliards de francs burundais destinés à la construction du barrage de Manda. Il n'y a jamais eu de suite alors que les auteurs sont bien connus. Donc, c'est très difficile de gagner la confiance des bailleurs et des investisseurs dans ces conditions. Il y a plusieurs préalables qui doivent d'abord être discutés avant d'inviter les investisseurs à placer les capitaux au Burundi.
Certains des Burundais semblent avoir perdu toute confiance sur la possibilité d'un changement dans le pays pour autant que le président de la République ne tient pas ses promesses. Quel espoir pour l'avenir? On en parle avec l'invité de Parfait, Mudasigana. L'invité.
Bonjour, Faustin Ndikumana. Sur base de quoi vous fondez l'espoir des résultats positifs après le forum sur le développement de l'économie du Burundi?
Bon, je dois dire que la récente réunion, le récent forum avait 4 choses de particularité et sur lesquelles peuvent se fonder l'espoir d'une éventuelle mise en application des recommandations ici de ce forum. Et d'abord, c'est la première fois qu'une réunion est en conclave réunie les experts, les intellectuels et les décideurs, même les hommes politiques qui prennent des décisions. Et dans cette réunion, la parole était donnée aux experts et aux intellectuels qui savaient éclairer, qui savaient donner de la lumière sur ce qu'on doit faire pour tirer le Burundi des affaires de la pauvreté, pour que le décourage économique soit effectif vers un Burundi émergent 2040. C'est l'objectif principal global du forum. Et encore, on a vu que le président est resté Après l'ouverture des travaux, il est resté, il a suivi toutes les discussions, tous les exposés, et il a suivi avec intérêt, et de 8h jusqu'à même 20h du soir. Ça montre qu'il a affiché un engouement pour son débat, et cet engouement aussi, c'est l'élément sur lequel il peut se fonder l'espoir, parce que somme toute, c'est le premier, et décider, c'est le premier, la haute autorité qui peut être le garant de la mise en application de ces de recommandations. Encore, on a décidé qu'il y aura un cadre de mise en application des recommandations ici du forum. Et ce cadre, on va voir, on va l'analyser, mais l'essentiel, c'est qu'il a été prévu de le mettre sur pied. Et il y a aussi, il est prévu de l'organiser d'autres prochaines réunions dans lesquelles, à travers lesquelles, on pourra faire l'évaluation d'abord des recommandations des réunions antérieures. Et ces quatre particularités, ces quatre éléments peuvent constituer la fondation et dans l'éventuel espoir de mise en application de ces recommandations.
Les débats n'ont pas accordé une place importante aux défis politiques liés au retour de la paix et la sécurité dans le pays. Les conclusions du forum ne risquent-elles pas de finir dans les tiroirs?
Et bon, même si on n'est pas revenu en profondeur sur les situations de sécurité, stabilité politique et droits de l'homme, je dois dire que on y est revenu. Principalement moi, je suis revenu sur l'importance de la cohésion nationale pour que le Burundi puisse décoller. J'ai même trouvé comment les crises politiques à caractère répétitif ont pesé lourdement sur l'économie nationale, notamment en 1993-2005, où le PIB s'est contracté de 33%, sans oublier 2015, où le PIB s'est contracté de 3-5%, et donc ça a pesé lourdement sur notre économie. Donc, on n'est pas allé en profondeur, mais l'essentiel, c'est qu'on a mentionné ça. Et d'ailleurs, même celui qui a exposé sur l'environnement des affaires hier, il a insisté sur la stabilité politique, l'image du pays comme élément fondamental de l'environnement des affaires. Et si on vient s'assurer l'environnement des affaires, la promotion du secteur privé et la stabilité politique, l'image du pays, vraiment est quelque chose de très fondamental. Je crois qu'on pourra y revenir dans les émissions ultérieures. L'essentiel, c'est qu'on a mentionné ça.
La volonté du président n'est pas suivie dans les faits. Cas du central hydroélectrique de Mhanda, n'est-ce pas un blocage?
Dans chaque pays, même au Burundi, et quand il y a un courant qui vient pour réformer la société, et qui vient pour bousculer certaines habitudes établies, et le courant réformateur doit toujours rencontrer des résistances. Des résistants des uns et des autres qui veulent maintenir le statu quo, qui affiche toujours un caractère réfractaire aux changements, aux réformes qui sont initiées, parce que les réformateurs viennent bousculer les habitudes, qui leur donnent des avantages, parce que même fois ils pensent à leur intérêt égoïste et sectaire. Le courant réformateur pourra avoir ses difficultés. Et c'est pour cela que des fois le président prend des mesures, mais la mise en application devient beaucoup plus lente. On le voit, il peut y avoir des résistances ici et là. Donc, comme on ne réforme pas une société, on ne change pas de politique avec les mêmes hommes, je crois que le conseil que je peux donner, c'est opérer à des changements de visage pour qu'il y ait d'autres éléments capables de s'imprégner des nouvelles idées, capables de composer avec ces nouvelles réformes. On ne change pas de politique avec les mêmes hommes. C'est impossible. C'est la politique, c'est la théorie de la politique universelle. Et je crois que petit à petit, on pourra y arriver.
Je vous remercie, Faustin Dikumana.
Merci à Parfum Dasigara et son invité Faustin Dikumana. Et c'est par ici que s'achève ce magazine Défi de chez nous. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Je vous fixe au prochain rendez-vous de ce magazine en synergie. Ce sera le 30 décembre 2021. Au revoir et à la prochaine.
C'était le magazine Défi de chez nous, produit par la synergie des médias
RPA, Ijwi ry'Abanyagihugu, Inzamba, Agatsi Kakawe et la télévision Renaissance. Défi de chez nous.